Une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle série de l'été, Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises, du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel, c'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. Aujourd'hui, je vous raconte le crime de la rue Montaigne. Nous sommes dans le Paris des Beaux-Quartiers, près du rond-point des Champs-Élysées. Cette histoire commence en 1887, à la veille du printemps, un jour de mars, de bon matin. À la veille du printemps, oui, mais il neige. Oui, la neige est tombée pendant une partie de la nuit et il neige encore, à gros flocons. Les rues sont blanches, les toits sont blancs, les arbres. Oh, il doit être 7h environ. Il fait encore sombre. Les rues sont silencieuses, plus silencieuses que d'habitude. La neige et le froid engourdissent tout, figent tout. Quelques fiacres se risquent dehors. Les cochers hésitent. Ça glisse. Les chevaux glissent. 17 mars 1887. Nous sommes rue Montaigne. Une rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Jean Mermoz, du nom de ce pionnier de l'aviation bien connu. Mais à l'époque, bien sûr, on ne connaît pas encore l'avion, ni la voiture. Nous sommes dans le prolongement de l'avenue Montaigne, une avenue qu'on connaît aujourd'hui comme celle des grands couturiers, Dior, Chanel, Givenchy. En cette fin du 19e siècle, on n'y trouve pas encore les grandes enseignes de la mode, mais le quartier est très prisé par l'aristocratie et la haute bourgeoisie parisienne. Cette année-là, en 1887, Paris se prépare pour l'exposition universelle. On pose les fondations de la Tour Eiffel, de ses quatre piliers. C'est une nation fière d'elle-même, fière de son développement, de son industrie, qui va se présenter au monde. Face aux autres nations européennes, face à l'Allemagne, face au Reich allemand. L'Allemagne de Bismarck, celle qui a humilié la France en 1870, qui a annexé l'Alsace-Lorraine à peine un peu plus de 15 ans plus tôt. Nous sommes rue Montaigne, au numéro 17, dans un bel immeuble, dans l'un de ces nombreux immeubles haussmanniens qu'on voit à Paris depuis le Second Empire. Une femme descend l'escalier. Elle vient de l'étage des bonnes. Elle parvient au troisième. C'est la cuisinière. Elle travaille chez Madame de Montille. Elle ne frappe pas à la porte, non. Non, elle donne quelques coups sur le mur, pour ne pas réveiller madame. La femme de chambre, elle dort dans l'appartement, dans la chambre juste à côté de l'entrée. Il suffit de donner quelques coups sur le mur et elle vient ouvrir. Donc elle devrait ouvrir, comme tous les jours. Oui, mais elle ne vient pas. Il n'y a pas un bruit, pas un pas. Enfin, oui, elle entend les chiens, les deux carlins, les petits chéris de madame. Ils trottinent sur le parquet. Elle perçoit leur allaitement. Mais rien d'autre. Elle frappe. À la porte cette fois-ci. Doucement. Elle attend. Elle frappe une nouvelle fois. Un peu plus fort. Mais toujours rien. Et ça, c'est étrange. Ça finit par l'inquiéter. Évidemment. Madame de Montille a des horaires réguliers. Bien réguliers. Elle devrait être levée. La cuisinière se décide à descendre. Elle se dirige vers la loge de la concierge. Et elle regagne l'étage ensemble. Cette fois, c'est la concierge qui frappe. Elles attendent. Et elles attendent encore. C'est inquiétant, non? Alors elles se rendent au poste de police le plus proche. Elles pressent le pas. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Elles osent à peine y penser. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Le pire. Oui, les deux policiers qui entrent dans l'appartement comprennent, vite, les taches sur le sol, de longues traînées rouges, des traces de pas, rouges, du sang partout, du sang. Les chiens, les deux carlins, en ont mis partout. Il y a les traces de leurs petites pattes, partout. Les policiers retiennent leur souffle. Ils sont prêts à voir pire encore. Prêts ? Non. Comment se préparer ? Est-ce qu'ils ont déjà vu un cadavre ? Est-ce qu'ils ont déjà vu un massacre ? Non. Ils ressortent aussitôt. L'estomac ne peut pas résister. Il faut télégraphier au Quai des Orfèvres. Parce que ça, c'est pour le 36. Une heure plus tard, un peu plus, dans l'appartement de Madame de Montille, Régine de Montille, ou plutôt de son vrai nom, Marie Regnault. C'est une femme galante, comme on dit alors. Pas une prostituée, non, non. Une femme entretenue par deux ou trois amants réguliers et qui, tous les trois, se croient uniques, bien entendu. Il y a quelque chose sur elle ? Oh non, rien, commissaire, non. Il n'y a jamais rien eu à dire, pas la moindre plainte. Au contraire. Il y a deux hommes qui parlent ensemble. Les hommes du 36, du Quai des Orfèvres. Le commissaire Goron, l'inspecteur Jaume. Goron lisse la pointe de ses moustaches, l'une et puis l'autre, calmement. On dirait qu'il s'applique. Il les roule entre le pouce et l'index. Il a besoin de s'occuper les mains, les doigts. Est-ce qu'il est perturbé, le commissaire ? Non, il a l'habitude, bien sûr. Ils ont l'habitude. Les cadavres, ça ils en voient, oui. Ils ont appris à rester maîtres d'eux-mêmes, à gouverner leurs tripes et à garder leurs yeux bien ouverts. Mais là, Goron finit par avouer. Jaume ! Oh, Jaume, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il y a un corps, et puis un deuxième, et un troisième, et puis du sang, beaucoup de sang. Le premier corps, celui d'une femme, hors de chambre, Régine de Montille. Elle est étendue à côté du lit, la tête et tout le corps baignent dans le sang. Elle a été égorgée. Et là, à côté du lit, ça ressemble à un portefeuille. Il est maculé de sang, vide. Et sur la commode, entre les deux fenêtres, il y a une tirelire en porcelaine, brisée. Et puis, enchâssé dans la commode, un coffre-fort, maculé de sang, lui aussi. Des traces de doigts, rouges, ils sortent de la pièce. Il y a l'autre chambre, celle de la femme de chambre. Le corps est étendu devant la porte. Elle s'apprêtait à l'ouvrir. Elle avait sûrement entendu madame tirer la sonnette. Peut-être le bruit aussi. Elle allait sortir. Elle aussi, elle baigne dans son sang, égorgée. Et la troisième victime ? Est-ce que les policiers n'ont pas parlé d'une troisième victime ? Jaume porte la main à sa bouche. Il articule. « Ici, commissaire !» Goron se raidit. Il porte la main à sa moustache, enroule les pointes, l'une, puis l'autre. Comment a-t-il pu ne pas la voir ? Est-ce que sa vue est en train de se brouiller ? Est-ce que l'émotion est en train de le gagner ? Peut-être qu'il faut qu'il sorte, qu'il prenne l'air, un peu d'air. La troisième victime, elle est là, dans la même pièce, dans le lit. Et c'est pire que tout. C'est un enfant, une petite fille. Elle doit avoir 8 ou 9 ans. La fille de la femme de chambre. Un enfant, oui. Elle est recroquevillée. Elle a cherché à se protéger. Goron, Jaume, ils regardent la même chose, certainement. Cette vision d'épouvante. Ils ressortent de la chambre, sans bruit. Brusquement, le cadavre de l'enfant vient rendre la scène plus terrible encore. Le commissaire et l'inspecteur sont sortis prendre l'air sur le palier pour retrouver leurs esprits. Jaume examine la porte et la serrure. Un réflexe. La porte n'a pas été forcée, commissaire. Il examine la serrure. Il se penche. En inspecte le pourtour, l'intérieur, soigneusement. Il n'y a pas de traces de griffure. Et pas crocheté, apparemment. Voilà. Voilà, ils ont un triple meurtre et un vol. Des bijoux, surtout. Beaucoup de bijoux. Une montre en or, en forme de... en forme de cœur. Des pendants d'oreilles en or, eux aussi, sertis de turquoise. Une boîte d'allumettes en argent. Des bracelets en or, toujours. Plusieurs bagues. Ils en ont assez vu pour aujourd'hui. Le commissaire Goron réfléchit. Jaume lui parle, mais il n'a pas l'air de l'écouter. Il a l'air ailleurs. Et puis brusquement, il revient sur ses pas. Jaume le suit, sans savoir. Il retourne dans l'appartement, dans la chambre de Régine de Montille. Goron jette encore un coup d'œil au lit. Regardez, Jaume. Regardez le matelas. L'inspecteur suit son regard et sa pensée, la literie. Le matelas, il porte la marque d'un deuxième corps, non ? Alors, inspecteur ? Alors, il n'y a pas de trace d'effraction. Et puis ceci. Nous pouvons raisonnablement penser que Madame de Montille a passé la nuit avec son meurtrier, commissaire, n'est-ce pas ? Goron et Jaume ressortent de l'appartement et quittent l'immeuble. Ils montent dans un fiacre, direction le quai des Orfèvres. Jaume, trouvez-moi celui ou ceux pour lesquels Madame de Montille avait des bontés, d'accord ? Des bontés, monsieur le commissaire ? Oh, Jaume, s'il vous plaît, ne faites pas celui qui ne comprend pas. Son amant. Ou plutôt ses amants. Le lendemain 18 mars, nous voici sur l'île de la Cité, derrière Notre-Dame. Nous sommes à la morgue de Paris, en présence d'un médecin légiste de renom. Oh, ce n'est pas n'importe qui, c'est aussi le doyen de la faculté de médecine de Paris, le professeur Brouardel. Il est entouré de ses assistants. Sur la table d'autopsie, il y a le corps de Régine de Montille. Le ventre a été ouvert, de bas en haut. Les deux autres corps attendent un peu plus loin, la servante et la petite. Goron est venu seul. Il écoute la leçon du professeur Brouardel. Le médecin est formel. Les plaies sont très semblables. Elles sont signées, vous comprenez ? Tous les coups ont été portés par la même main, la main d'un seul homme. Goron est dans ses pensées. Encore un seul homme. Il songe à celui qui a passé la nuit du 16 au 17 mars avec Madame de Montille. Ils ont pourtant interrogé la concierge. Elle n'a vu personne. Personne n'était monté chez Régine de Montille ce soir-là. C'est ce qu'elle avait dit. Et pourtant, cette trace d'un autre corps dans le lit. Goron roule l'une des extrémités de sa moustache, la pointe, distraitement, entre le pouce et l'index. Brouardel va livrer ses dernières conclusions. Il a prélevé des viscères. L'estomac et la vessie, cela nous donnera sans doute des éléments sur l'heure du crime, fût-ce de façon approximative. Le médecin dicte à l'un de ses assistants. Vu le stade de digestion des derniers aliments ingérés, la mort doit avoir eu lieu à la fin de la nuit, entre 4h et 5h du matin. Oui, c'est ça, se dit Goron. À la fin de la nuit, ou à l'aube, il a attendu l'aube. Il espérait ne pas les éveiller. Peut-être, il a été surpris. Il l'a tuée, elle d'abord, celle avec laquelle il venait de passer la nuit, puis la femme de chambre, qui venait au secours de sa maîtresse, puis la fille, la petite.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, dans 36 Quai des Orfèvres, je vous parle d'un crime sanglant. Très sanglant. Horrible. Horrible au point de troubler les meilleurs éléments du 36, le commissaire Goron et l'inspecteur Jaume, qui sont sur l'enquête. Trois corps sans vie, découverts dans un bel appartement, rue Montaigne, celui de Madame de Montille, de sa femme de chambre et de sa petite fille. Des bijoux ont été volés. Le coupable ? Peut-être bien un intime de Régine de Montille, du moins... C'est ce qu'indiquent les premiers indices. Le commissaire Goron quitte la morgue et rejoint le quai des Orfèvres. Ce n'est pas loin, pas plus de 10 minutes. Un chauffeur de fiacre le hèle, il le remercie d'un geste. Il marche. Il préfère marcher. Il boite Goron, légèrement. Il aime bien marcher, mais il boite. C'est un souvenir des Prussiens, à la bataille de Sedan. C'est sa façon de se dire qu'il peut être content d'avoir encore ses deux jambes. Ça y est. Il est au 36. Goron se hâte. Il est transi. La marche ne l'a pas réchauffé. Il monte dans son bureau. Jaume reconnaît son pas. Tout le monde connaît son pas. Et puis, si ce n'est pas son pas, c'est à sa façon de jurer qu'on le reconnaît. Et là, il n'est pas content, le commissaire Goron.
Non mais pourquoi personne ne pense allumer mon poêle? On veut me tuer, oui ou merde?
Et puis, il passe chez Jaume. Il est énervé, mais ça passe vite, en général.
Alors, du neuf, inspecteur?
Jaume est assis à son bureau. De loin, on dirait qu'il joue aux cartes. On dirait qu'il fait une patience. Le commissaire sourcille. Ce sont des cartes de visite.
Non mais qu'est-ce que vous faites, Jaume?
C'est la collection de cartes de visite de Madame de Monti, monsieur le commissaire. Que du beau monde. Son amant? Jaume rectifie. Ses amants, commissaire. Quatre, jusqu'à nouvel ordre. Il lui tend les cartes qui l'intéressent, une à une. Le vicomte de Saint-Geniès, vous savez, l'écrivain. Et puis le moine, l'homme d'affaires. Et un certain Jean-Toit, un rentier. C'est le moine qui réglait le loyer de l'appartement. L'inspecteur saisit quelque chose sur la table. Une ceinture. Et le quatrième. C'est une ceinture d'homme, fine. Le genre de ceinture comporte en plus des bretelles. Sur la partie intérieure, il y a deux initiales. G, G. C'était dans la chambre de Madame de Monti, sous le lit. Il poursuit. Mais j'ai mieux. Enfin, j'ai plus. Tenez. C'est un feuillet bleu. Une lettre. Goron la parcourt. Elle est datée du 15 mars. Ma chère Jean, j'arrive à la minute de Nancy. Je serai chez toi à 11h du matin. À demain donc, mon seul espoir. Je t'embrasse là où mes lèvres brûlantes font ton unique bonheur. Signé Gaston Gessler. Alors bien sûr, ça peut paraître étrange, oui, ce Gessler, s'il est le meurtrier. Ce Gessler aurait laissé sa ceinture et une lettre. Qu'il ait laissé autant de moyens de l'identifier. Goron a un doute, oui, il a un doute, mais qui n'en aurait pas? Il saisit le regard de Jaume. Il pense comme lui, non? Qu'en pensez-vous, Jaume?
Oh, que c'est un peu trop beau pour être vrai, commissaire, non?
Ça peut paraître gros, oui. Et pourtant Goron, lui qui ne manque pas d'expérience, il en a vu combien des meurtriers qui signent leur forfait en laissant des traces grossières, comme s'ils voulaient qu'on les retrouve. Lui qui ne manque pas d'expérience, il sait qu'il ne faut pas écarter une maladresse. Un oubli qui paraît, à première vue, inconcevable. Oui, inconcevable. Une ceinture avec ses initiales. Une lettre. Mais voilà qu'on frappe à la porte.
Quelqu'un pour vous, pour l'affaire de la rue Montaigne, commissaire.
C'est la concierge de l'immeuble. Goron lui fait servir un café. Il faut les soigner, ces petites mains qui poussent l'enquête. Goron se prend à espérer. Si elle revient, c'est peut-être que... Et si... Mais oui, elle est venue parce qu'elle a oublié quelque chose. Et elle se rappelle. Oui, elle a bien vu un homme monter chez Madame de Monti. En fin de soirée, assez tard. Plutôt petit, mince. Il était vêtu d'un pardessus en drap foncé. Je dirais gris ou noir avec un chapeau. En haute forme, il est passé devant ma loge, mais tellement vite. Elle termine son café en prenant son temps. C'est bien, rien de presse. Enfin, ça ne revient pas à une minute ou deux. Elle pose sa tasse, le commissaire la raccompagne. Il est satisfait. Depuis qu'il est dans la police, Goron a appris deux ou trois choses élémentaires, mais incontournables quand on veut être un bon enquêteur. Il y a des gens qu'il faut soigner et avec lesquels il faut pouvoir s'attarder. Ça, il l'a déjà dit à Jaume. Et pas qu'une fois, non. Il y a deux catégories de gens à soigner, Jaume. Je dirais à bichonner même. Vous comprenez? Les concierges et les conducteurs de fiacres, les cochers. Est-ce que l'enquête ne commence pas bien? Est-ce qu'ils n'ont pas un nom? Est-ce qu'ils n'ont pas un signalement? Jaume,
oui?
Jaume, rédigez-moi une note à destination de tous les postes de police pour Paris et pour la province. Et transmettez-leur ce qu'on a. Gaston Gessler avec le signalement de la concierge. Et la liste des objets volés.
Deux jours plus tard, nous sommes à la préfecture de police, au quai des Orfèvres, au 36. Ça y est, il y a quelque chose. Déjà?
Oui.
Oui, l'inspecteur Jaume descend l'escalier en toute hâte. Il ne prend pas la peine de frapper. Il ouvre la porte du commissaire Goron.
Du nouveau? Gaston Gessler?
Non, les bijoux. À Marseille, un homme avec un accent étranger
il a vendu des bijoux à deux prostituées. Une montre en forme de cœur, des pendants d'oreilles, des boucles d'oreilles, serties de turquoise. Le prix était tellement ridicule qu'elles ont trouvé ça suspect. Goron se lève. Il se réajuste, enfile son manteau et met son chapeau. Il tire sa montre de son gilet. Ça y est. On dirait bien que ça y est, qu'ils sont tout proches. Passez chez vous, Jaume. Préparez quelques affaires. Rendez-vous à la gare. Nous pouvons avoir le train de 16 heures. Nous sommes le 24 mars, soit une semaine après le crime. Le commissaire Goron et l'inspecteur Jaume sont arrivés à Marseille. Ils sont descendus à la gare Saint-Charles et ils ont rejoint la préfecture de police. Celui qui les guide dans les couloirs, c'est le commissaire Secaldi, de la Sûreté marseillaise. Il les laisse s'installer dans son bureau, puis il leur montre les bijoux et il en rajoute. Sur la qualité de ces hommes, sur la police marseillaise. Goron approuve. Enfin, il n'en pense pas moins. Il y a la police, oui, mais il y a tous ceux sur lesquels on peut compter. Il y a les concierges, les conducteurs de fiacres et les filles. Rien de tel qu'un bordel pour vous livrer des suspects. Les confidences sur l'oreiller, ça reste une valeur sûre. Et ce client alors? L'homme qui a vendu les bijoux? Secaldi a transmis son signalement. Il n'ira pas bien loin. D'après le témoignage des deux filles, c'est un homme assez grand, fort, le teint hâlé. Jaume jette un regard à Goron, un regard qui en dit long, et pas en bien. Ils se comprennent, oui. Celui qu'il cherche, Gessler, il est petit, il est mince, non? Ils regagnent leur hôtel, sans un mot. Peut-être qu'ils auraient mieux à faire à Paris. Goron réfléchit, il tourne en rond, il est nerveux. Et s'il y avait un autre homme? Boisdel a parlé de la même main. La même main a porté les coups. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre homme, non? Ils attendent encore. La journée du lendemain n'apporte rien de plus. Enfin jusqu'en fin de journée. Voilà que vers 5 heures, l'hôtelier vient les trouver dans le fumoir, suivi d'un agent de police. C'est urgent, le commissaire Secaldi, et il vous attend au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre? Pourquoi faire? Secaldi est là avec une demi-douzaine d'hommes, des agents, en civil, en habit bourgeois comme on dit alors. Ils sont sous la colonnade, près de l'entrée. Il a toujours l'air aussi fier de lui, le chef de la sûreté marseillaise. Messieurs, vous ne serez décidément pas venus de Paris pour rien. Un fiacre s'immobilise. Deux femmes en descendent. Ce sont les deux filles. Ils entrent, tous, discrètement. Le commissaire Secaldi, à l'abri derrière un rideau, désigne aux deux femmes la quatrième rangée. Le troisième siège, un homme aux cheveux noirs, favori, grand, le teint hâlé. Elle confirme, c'est lui. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que le rideau tombe et que le public se lève, qu'ils quittent leur siège. L'homme de la quatrième rangée, du troisième siège, voilà, il est arrêté, discrètement. On l'entoure, on le saisit, et voilà, c'est fait. L'homme, ce suspect qui semble avoir du goût pour l'opéra, il s'appelle Henri Pranzini, il a 30 ans, il est d'origine italienne. Il est né à Alexandrie. Le commissaire Goron et l'inspecteur Jaume doivent se rendre à l'évidence. Ce Pranzini, il n'est ni petit, ni mince, en effet. Et il ne s'appelle pas Gessler. Les bijoux, il les a peut-être vendus aux deux filles. Mais est-ce qu'il les a volés? Et s'il n'était qu'un receleur, un revendeur? Ou alors, il serait ce deuxième homme, un complice? Mais ça se complique encore, Pranzini. Il ne reconnaît pas les bijoux. Il ne les a jamais vus. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui, il est allé au bordel, d'accord, mais c'est tout. Vendu des bijoux à ses deux filles? Une montre? Des pendants d'oreilles? Ah non, non, ça non. Les filles l'ont reconnu, d'accord. Mais c'est la parole de deux filles de joie, des prostituées. N'importe quel avocat balayera leur témoignage. Ça ne tiendra pas la route. Il en faut plus. Goron et Jaume en veulent plus. C'est le commissaire Secaldi qui leur prépare encore une surprise. Nous sommes le 26 mars. Il les fait chercher à leur hôtel. Les voilà à nouveau dans son bureau. Il leur sourit. Il est toujours mystérieux, le collègue marseillais. Il aime ménager ses effets. Qu'est-ce qu'on va leur montrer cette fois? C'est un conducteur de fiacre, un cocher, qui va répéter à Goron et Jaume ce qu'il vient de lui raconter. Quoi? Qu'il a embarqué un homme, qu'ils ont fait tout un tour, le 22, dans l'après-midi. Il a terminé sa course rue Ventomaggi, la rue du bordel des deux filles. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais Secaldi a un geste pour Goron. Patience, cher collègue. Le cocher continue. Avant ça, avant la rue Ventomaggi, ils sont passés au parc. Le parc du palais de Longchamp.
Il avait un paquet en papier avec lui. Il m'a demandé de l'attendre. Il a disparu dans le parc, il est revenu, je dirais, une quinzaine de minutes plus tard, sans le paquet.
Et si c'était le genre de petite chose qui permet de relier les pièces entre elles et de confondre un suspect? Peut-être.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans 36 Quai des Orfèvres, nous revenons sur le triple meurtre de la rue Montaigne. Les enquêteurs du 36 avancent. Ils ont retrouvé la trace des bijoux volés à Marseille. Et ils tiennent un suspect. Mais ils cherchaient un certain Gessler, petit, mince. Et ce qu'ils ont, leur suspect, il est grand, fort, et il s'appelle Pranzini. Et si le meurtrier de la rue Montaigne n'avait pas agi seul? Et si Pranzini était le complice de Gessler? Un chauffeur de fiacre dit l'avoir conduit dans un parc quelques jours après le crime. Pranzini a disparu avec un paquet, et puis est revenu quelques minutes plus tard, les mains vides. Le chef de la sûreté organise un tapissage. On présente au cocher une dizaine d'hommes, de face, puis de profil. Et il désigne Pranzini, sans la moindre hésitation. Henri Pranzini. Il se serait donc rendu dans le parc du palais de Longchamp, avec un paquet. Mais, interrogé, il reste étonnamment maître de lui.
C'est un paquet qui m'a été envoyé de Paris avec des mécanismes, des ressorts de montres. Oh, je pensais pouvoir en faire quelque chose, les revendre.
Des mécanismes? Des ressorts de montres? Mais qu'est-ce qu'il raconte, Pranzini?
Mais il n'avait rien d'intéressant, rien à en faire, rajoute-t-il.
Et il s'en est débarrassé. Dans le parc, entouré par Secaldi et ses hommes, par le commissaire Goron, par Jaume, suivi par une foule de curieux, suivi par les journalistes de Marseille et de ceux qui sont arrivés de Paris, Pranzini conduit les enquêteurs vers un bassin.
« Je crois que c'est ici, lâche-t-il. »
Qu'à cela ne tienne. Eh bien, on va vider le bassin. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais on va le retrouver, ce paquet, non? Il faut plusieurs heures. On a fait venir une pompe, mais quand même. 3 heures à pomper et à vider. Et il n'y a rien. Pas de paquet. Pas de ressort de montre. C'est tout petit, des ressorts de montre. Ça a pu disparaître. Se glisser dans la vase. Qu'à cela ne tienne, eh bien, on va tout passer au tamis. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au bout du compte, il n'y a rien.
Alors, Pranzini, vous êtes certain que vous l'avez vidé ici, votre paquet? Oh ben, je ne sais plus, je...
Pranzini jette un coup d'œil aux alentours. Il semble hésiter. Il fait quelques pas, tout le monde le suit. Les policiers, les journalistes, les curieux, prêts à le suivre, il hésite encore et puis...
C'était peut-être l'autre bassin, monsieur le commissaire.
Le bassin au phoque. Il va falloir le vider aussi. Mais qu'est-ce qu'on va en faire, des phoques? Goron jette un coup d'œil en direction de Jaume. Est-ce que sa mémoire lui joue des tours, Pranzini? Ou est-ce qu'il se moque de nous? Mais voilà qu'une dame se détache du groupe des curieux et s'avance.
Monsieur le commissaire?
Elle a quelque chose à dire, qui pourrait peut-être aider. Elle a vu Pranzini l'autre jour. Elle en est certaine à présent.
Oui. C'est moi qui tiens les cabines de toilette, les water. Ce monsieur est venu pour une cabine l'autre jour. Il y est resté un moment. Un bon moment.
La voilà, cette petite chose. Ce petit coup de pouce qui peut tout débloquer. Tout dénouer peut-être. Mais les toilettes, c'est autre chose que les bassins. Il va falloir... Ah oui, vider les fosses. Et la dame des cabines, elle a...
une mauvaise nouvelle. Elles viennent d'être vidangées ce matin. Ça, évidemment, il s'en passerait bien. Les matières, pour le dire pudiquement, ont été transportées ailleurs. Où ça? Loin. Là où ce genre d'odeur ne peut plus empester. Au dépotoir, au sud de la ville. Ah oui, vraiment, il s'en passerait bien. D'autant que les matières des Water, du parc de Longchamp, elles ont été mêlées à d'autres matières. À beaucoup d'autres matières. À ce qui vient des quatre coins de la ville. Le commissaire Secaldi est plongé dans ses pensées, plutôt dans ses calculs, et il soupire.
Je crois pouvoir vous dire que nous allons devoir explorer pas moins de, je dirais, 50 tonnes de déchets. Enfin de...
Goron l'interrompt. Il a envie de passer à autre chose, s'entraîner.
Vous voulez dire 50 tonnes de merde? Eh bien, on fouillera ces 50 tonnes de merde. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen, non?
C'est la fin de l'après-midi. Le commissaire Goron et l'inspecteur Jaume repassent à la préfecture. Ils veulent jeter un œil aux effets de Pranzini, à sa valise, ce qui a été saisi à son hôtel. Il y a des lettres, de nombreuses lettres, de femmes. Pas d'une femme, de plusieurs femmes.
Vous avez vu ça, commissaire? Vous devriez jeter un œil. C'est un véritable don juan, le Pranzini.
Ils en ont assez. Ils rejoignent leur hôtel. Ils vont prendre un bon repas et se reposer un peu. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Le temps de filtrer tous les excréments de Marseille. Jaume cherche le regard de son supérieur. Il essaie de saisir sa pensée.
Vous vous demandez quand il va céder, hein, c'est ça?
Qui donc, Jaume?
Pranzini?
L'inspecteur connaît ça. Les silences du patron, l'esprit ailleurs. Quand il a son idée, mais qu'il lui manque encore quelque chose pour lui donner toute sa consistance. Ils arrivent dans le hall de l'hôtel. Ils passent à la réception. Le gérant de l'hôtel leur tend un pli. C'est un télégramme de Paris. L'inspecteur l'ouvre. Il grimace. C'est qu'on l'avait presque oublié, celui-là.
Gessler, commissaire.
Et voilà que Gessler, qui n'était qu'une ceinture et qu'une signature au bas d'une lettre, dans la chambre de Régine de Montille, prend soudain vire. Enfin, presque.
Trouver chambre Gessler, stop. Hôtel Cailleux, stop. Rue Quentin, proximité Gare du Nord, stop.
Ils ont trouvé la chambre de Gessler. Mais Gessler? Gessler lui-même, en chair et en os? Non. Non, il leur échappe encore. Ils en ont bientôt fini à Marseille. Il faut espérer. Bientôt fini. Oui. La bonne nouvelle arrive. Enfin. Le reste des bijoux volés, on vient de les retrouver. Et qu'est-ce qu'il en dit, Pranzini? Il ne dit rien. La dame des cabines, des Water, elle se trompe. Il n'y est pas allé. Non. Et les bijoux? Eh bien, non. Non, il ne les a jamais vus.
Nous le tenons, Jaume. Il s'enferme. Il va bientôt se débattre dans ses mensonges.
Est-ce qu'elles ne sont pas grossières, ces dénégations? Il en est sûr, Goron. Pranzini ne va pas tenir longtemps. De retour à Paris, Goron et Jaume l'emmènent sur les lieux du crime, rue Montaigne. Et si Pranzini était plus qu'un simple receleur? Et si c'était lui, l'assassin? Ou cet autre, ce deuxième homme dans l'appartement cette nuit-là? Dans l'appartement, il l'observe, il le jauge. Les corps, les cadavres ne sont plus là. Mais toutes les traces du crime, le sang, partout. Le désordre du crime, tout est là. Est-ce qu'il y est déjà venu, Madame de Monti? Est-ce qu'il la connaît?
Non, dit-il.
Ils sont de retour au 36. Ils vont l'interroger, encore et encore. Est-ce qu'il ne va rien céder? Ils sont dans le bureau de Jaume. Ça fait plus d'une heure qu'ils lui posent les mêmes questions. Pranzini est à bout de force, eux aussi. Et puis voilà que le regard de Jaume tombe sur les cartes de visite retrouvées par dizaines chez Régine de Montire. Il les réexamine, une à une. Une inspiration. Il ne faut pas y croire, non, ce serait trop beau, bien sûr. Oui, mais ça arrive. Voilà, il la tient en main. Une carte au nom de Henri Pranzini. Il l'attend au commissaire. Goron lève les yeux sur Pranzini. Et d'un seul regard, il lui fait comprendre que c'est fini.
Il pose la carte devant lui.
« Ah, vous ne la connaissez pas, Madame de Montir. »
Voilà, tout se met en place. Chaque chose à sa place. Enfin presque. Le soir tombe, je me reviens de la rue Quentin, de l'hôtel Cailleux, près de la gare du Nord. Dans le registre, oui, il y a un certain Gessler, né à Vienne. Dans sa chambre, il y a une valise. Dedans, des chemises, des cols, du linge. Du linge marqué GG. Et un sachet en papier avec des déchets de cigares. Sur le paquet, une adresse à Cologne. Il va falloir chercher. Encore. Il faut le trouver ou alors... Vous voulez vraiment mon avis, Jaume ?
Goron fait rouler la pointe de ses moustaches entre le pouce et l'index. La gauche, puis la droite. Il n'attend pas la réponse.
Gessler, c'est une invention de Pranzini.
Semé le doute, oui. Est-ce que ce n'était pas si proche, si près de réussir ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que Pranzini n'avait pas fabriqué un suspect ? Un certain Gaston Gessler ?
Il avait laissé une ceinture, avec ses initiales, une lettre. Cette lettre enflammée, adressée à Gine, où il l'embrasse. Là où ses lèvres brûlantes font son unique bonheur.
Monsieur le commissaire, nous parviendrons bien à démontrer que l'écriture de ce Gessler est celle de Pranzini, n'est-ce pas ?
Goron voudrait dire que c'est fini, qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais ce n'est pas fini, non.
Non, tant que ce fantôme, Gessler, continue de hanter le dossier.
Et pour le juge d'instruction, c'est assez.
Nous sommes le 9 juillet 1887. Pranzini est renvoyé devant la cour d'assises de la Seine.
Alors, oui, avec cette part de mystère, Gessler... Le doute subsiste, résiste.
Et il faut s'y attendre, l'avocat de Pranzini, maître Demange, l'une des figures du barreau de Paris.
Demange, Edgar Demange, celui qui sera bientôt, dans quelques années, l'avocat d'Alfred Dreyfus, Demange s'emploie à déstabiliser l'accusation et à faire douter les jurés.
« Est-ce qu'il ne manque pas un accusé ? »
plaide-t-il, avec toute sa force de conviction.
Est-ce qu'il ne manque pas, peut-être, le principal accusé, Gaston Gessler ?
Et il désigne cette ceinture, retrouvée dans la chambre de Régine de Montir. Cette ceinture, oui, qui est trop petite pour Pranzini. Pranzini, est-ce que vraiment, il peut être ce boucher, l'auteur de ce massacre ?
Il aurait tué ses deux femmes, cet enfant, lui que les femmes disent si raffiné.
Lui, Pranzini, qui aime l'opéra, lui, un homme de goût. Mais malgré ça, malgré Demange, l'accusation reste suffisamment solide. Malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas assez contre lui ? La lettre à Gine. L'expert en écriture, il est sûr de lui.
Oui.
Un alibi ? Est-ce qu'il a un alibi, Pranzini ?
Oui.
Oui et non. Rien qui puisse convaincre les jurés. Ce qu'il a fait entre 11h et 6h cette nuit-là, cette nuit du 16 au 17 mars... Il reste mystérieux. Et c'est un nouveau fantôme qui apparaît. Une femme. Pranzini, le séducteur. Pranzini, le don Juan. Il aurait passé la nuit avec une femme. Encore une femme.
Son nom ?
Il ne peut le révéler. Il fait le seigneur, le prince. Il ne le révélera pas. Une femme mariée, se défend-il. Une femme du monde, qu'il ne veut pas compromettre. On sourit à présent. On hausse les épaules.
Les jurés ont de quoi rendre leur verdict. Ils vont délibérer. Il leur faut du temps tout de même.
Ils reviennent après 2 heures de délibération. Ils reprennent leur place dans la salle des assises. Le chef du jury se lève et répond « Oui ».
« Oui, coupable ».
Et Gessler alors ?
Gaston Gessler, il restera ce qu'il était depuis le premier jour. Un fantôme.
Et Pranzini ?
Pranzini, il monte sur l'échafaud un peu plus d'un mois plus tard, à la fin du mois d'août 1887. Il est exécuté devant la prison de la Grande Roquette, à 2 pas du cimetière du Père-Lachaise.
La première. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour Jérôme de Brouwer.
Bonjour Jean-Louis.
Jérôme, vous enseignez l'histoire du droit à l'ULB et ça tombe bien, vous allez nous proposer votre éclairage sur nos affaires. Et cette histoire met en scène deux personnages importants qui ont bel et bien existé, François-Marie Goron et Paul Jaume, mais surtout un autre personnage, c'est le 36.
Oui, le 36 Quai des Orfèvres, une institution de légende et une adresse de légende. Et pourtant aujourd'hui, la police judiciaire parisienne ne se trouve plus au 36 Quai des Orfèvres, elle se trouve porte de Clichy. Et la légende étant ce qu'elle est, eh bien, l'institution a conservé un numéro 36. Mais ce n'est plus le 36 Quai des Orfèvres, c'est le 36 rue du Bastion.
Et puis, ça fait aussi penser à Scotland Yard.
Oui, ça fait penser à Scotland Yard. Pourquoi ? Parce que Scotland Yard ne s'appelle pas Scotland Yard, normalement. C'est la police métropolitaine de Londres qui est installée à Scotland Yard en 1829. Et elle a déménagé au fil du temps. Aujourd'hui, elle se trouve à Victoria Street et on l'appelle toujours Scotland Yard. Ou New Scotland Yard.
Alors ici, Jérôme, on voit que c'est une enquête quand même très compliquée. Et pourtant, c'est assez étonnant, Pranzini, il laisse une magnifique trace de main sur le coffre dans la chambre. C'est pas si compliqué.
Oui, une belle trace de main rouge ensanglantée. Oui. Donc on pourrait se dire, on va relever une empreinte. Et en fait, au cours de la décennie 1880, on ne relève pas encore les empreintes sur les scènes de crime. Il faut attendre un peu plus. Une dizaine d'années en réalité, donc on est tout proche. Identifier un criminel à la base d'une empreinte sur une scène de crime, ça va venir. En France, un peu plus tardivement qu'en Angleterre, mais ça va venir à la fin de la décennie 1890.
Merci Jérôme, et rendez-vous très bientôt à la même adresse, 36 Quai des Orfèvres.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.